L'actualité francophone en Suisse, polémique sur la réduction des offices postaux. L'Afrique, la découverte au Maroc des restes d'Homo sapiens vieux de plus de 300 000 ans. L'émergence de notre espèce serait donc plus ancienne que ce que l'on croyait. La France, l'immense popularité de Thomas Pesquet, l'astronaute revenu sur Terre après 6 mois dans l'espace, on lui doit de sublimes photos de notre planète. Le Canada, le gouvernement définit de nouveaux objectifs pour la politique étrangère et la défense. La Belgique, un prêtre intégriste sera jugé en appel pour des faits de pédophilie. Il avait déjà été mis en cause en Suisse. D'abord, les personnalités de la semaine au Canada, Dominique Brassard. C'est l'ancien président américain Barack Obama qui a marqué l'actualité. Il était de passage à Montréal pour prononcer une conférence.
Barack Obama qui a livré un message d'espoir. Il a plaidé en faveur de l'ouverture sur le monde et aux énergies propres, un discours qui tranche avec les idées de l'actuel président. Plus tard dans la journée, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a rejoint Barack Obama dans un restaurant de Montréal et ils ont discuté de leadership.
En Belgique, Nathalie Devic, une démission fait la une, celle du maire de Bruxelles.
Oui, on dit bourgmestre chez nous. Le bourgmestre donc de Bruxelles, Yvan Mayer, contraint de démissionner, emporté par le scandale des rémunérations du SAMU social, une structure privée mais financée par des subsides publics et dans laquelle le bourgmestre socialiste percevait des sommes élevées, injustifiées, genre de pratiques pour lesquelles d'autres élus socialistes sont déjà tombés en Wallonie, avec la circonstance aggravante à Bruxelles que le SAMU social est une association sans but lucratif qui œuvre pour les plus démunis. C'est donc ici l'aspect éthique surtout qui a choqué.
En Suisse, Pierre Anchoffa, un ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères, a beaucoup fait parler de lui.
Michael Ambühl, brillant diplomate qui a terminé sa carrière aux affaires financières internationales, sujet ô combien sensible pour la Suisse, pourrait en effet reprendre du service, mais au profit d'un autre État, la Grande-Bretagne. Selon le Times, Londres aurait en effet sollicité ses talents de redoutable négociateur pour l'aider sur le Brexit. À Bruxelles, en tout cas, la réputation de Michael Ambühl n'est plus à faire après les accords qu'il a pu arracher pour la Suisse. Pour l'heure, si Michael Ambühl confirme avoir eu des contacts avec des officiels britannique, il refuse de dire quoi que ce soit d'un potentiel mandat.
L'homme de la semaine en France, Johnny Hallyday, il aura 74 ans le 15 juin. Notre inoxydable star du rock revient sur scène pour la tournée Vieille Canaille avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Un retour évidemment très attendu depuis que l'on sait que Johnny est soigné pour un cancer. La presse s'interroge, pourra-t-il affronter l'épreuve physique de cette tournée? Interrogé à la télévision, Johnny Hallyday a évoqué le combat qu'il mène pour vaincre la maladie. C'est une épreuve à traverser. Comme beaucoup de Français qui ont le cancer, je me soigne, je lutte, je me bats. J'espère bien m'en sortir. J'avais à cœur de faire cette tournée car pour moi, c'est bénéfique moralement. En Afrique, Charlotte Hydrak, la personnalité de la semaine, c'est le président des Comores.
Oui, Azali Assoumani et Emmanuel Macron se sont téléphonés après les propos mal passés du président français sur les Kwasa Kwasa, ces bateaux de fortune empruntés par des Comoriens pour rejoindre l'île française de Mayotte, souvent au péril de leur vie. Emmanuel Macron avait déclaré sur le ton de la plaisanterie, les Kwasa Kwasa pêchent peu, il amène du Comorien, c'est différent. Pour Azali Assoumani, ce dérapage, je cite, aura au moins servi à mettre en lumière ce vieux contentieux entre Paris et Moroni.
En Suisse, Pierre Anchoffa, la réduction progressive du réseau des offices postaux entraîne des crispations avec les communes et les cantons.
Dans son rapport publié cette semaine, l'organe de surveillance de la Poste a certes décerné une bonne note à l'entreprise, mais il insiste lourdement sur les considérations sociales et régionales dont la Poste doit tenir compte pour restructurer, comprenez réduire, son réseau d'offices postaux. D'ici 2020, 500 bureaux de poste sur les quelques 1300 qui subsistent doivent fermer au profit de simples agences assurées par des petits commerçants.
Pierron, l'attachement à la Poste reste fort chez vous, même si les consommateurs s'y rendent de moins en moins souvent.
C'est vrai, courriel, paiement électronique, impression des timbres à domicile, la nécessité de se rendre au guichet se fait rare, mais il existe un lien émotionnel avec le géant jaune, comme on l'appelle en Suisse. Pour éviter les mobilisations massives contre elle, la direction de la Poste a donc renforcé son travail de conviction auprès des communes touchées, un effort de transparence indispensable car l'évolution technologique risque bien de provoquer de nouvelles réductions des guichets physiques. Thomas Bauer, de la direction de la Poste, on est convaincu.
Dans le marché de paiement, de communication, la technologie change très, mais vraiment très, très vite. Et qui connaît la technologie dans 5 ans, par exemple ? Personne.
Si cette évolution se poursuit, il va falloir de nouvelles restructurations en 2020 ?
Mais bien sûr, si les besoins, le comportement des clients a changé, il faut faire quelque chose.
S'adapter donc aux besoins et aux comportements des clients, autrement dit, investir dans des services modernes plutôt que dans le béton des guichets, quitte à brusquer une population qui reste sentimentalement attachée à ses offices postaux.
L'actualité en France, bien sûr, les élections législatives. La campagne pour le premier tour est terminée. Nous n'y revenons pas à quelques heures du scrutin. C'est la loi chez nous. Autre temps fort de l'actualité, le retour sur Terre de notre astronaute Thomas Pesquet. La semaine dernière, après une mission de près de 200 jours à bord de la Station spatiale internationale, son vaisseau Soyouz a atterri dans les plaines du Kazakhstan. À l'ouverture de la capsule, bien sûr, fin de la pesanteur pour lui. Et aussi d'autres sensations surprenantes.
Ce qui était assez drôle, c'est que je sentais même le savon des gens ou le déodorant des gens qui étaient venus nous chercher, parce qu'on n'est plus habitué à tout ça, on a le sens de l'odorat un peu inhibé, et du coup je sentais vraiment ça, je disais, les gens sont vraiment super propres aujourd'hui. Non, c'est juste que peut-être nous on n'a pas été super propres pendant 6 mois.
Thomas Pesquet, premier astronaute des réseaux sociaux, pendant ces 6 mois dans l'espace, il a envoyé des centaines de photos magnifiques de notre Terre, partagées des millions de fois sur le net, notamment chez les jeunes fascinés aussi par son courage. Exemple, lors du retour vers notre planète, cette entrée dans l'atmosphère, moment périlleux, comme le raconte Thomas Pesquet.
Quand on commence à rentrer dans l'atmosphère et que le freinage aérothermique, le bouclier thermique s'échauffe et s'érode, tout simplement, donc on voit des étincelles partir du côté des hublots, c'est vraiment des étincelles, côté feu d'artifice, et puis au fur et à mesure, les hublots se carbonisent, parce que la température atteint 1500 degrés, évidemment, à l'extérieur de la capsule. On est dans un plasma un peu rouge, et ça fait vraiment science-fiction.
L'actualité en Afrique, Charlotte Hydrac, l'espèce humaine vient de prendre un coup de vieux.
Et même un sacré coup de vieux avec la découverte de nouveaux ossements et outils d'Homo sapiens au Maroc. L'Homo sapiens, c'est nous, c'est vous et moi, c'est l'homme moderne. Pour le chercheur français Jean-Jacques Hublin, le site marocain de Jebel Iroud était une obsession, ce sont ses termes. Et ce qu'il a trouvé avec son équipe a été une belle récompense.
Nous savons depuis longtemps que l'Afrique, c'est notre terre d'origine. On se rend compte que cette histoire de notre espèce en Afrique est beaucoup plus longue et beaucoup plus ancienne que ce qu'on croyait. On va au-delà de 300 000 ans.
Plus de 300 000 ans, alors que jusqu'ici, les ossements les plus anciens étaient datés de 200 000 ans. Ils avaient été trouvés jusque-là en Éthiopie et en Afrique du Sud. Pour Jean-Jacques Hublin, cette découverte signifie donc que l'Homo sapiens a beaucoup voyagé sur un continent qui a bien changé.
Ça ne veut pas dire que le Maghreb, c'est le berceau de notre humanité. Ça veut simplement dire que, en fait, ça se passe un peu partout. Ça se passe en Afrique de l'Est, ça se passe au Maghreb, ça se passe en Afrique du Sud. Et un continent africain est bien différent de ce qu'il est aujourd'hui, où le Sahara a disparu et on a une savane gigantesque, des prairies qui couvrent depuis la Tanzanie jusqu'au Maroc.
Une découverte qui change la compréhension de nos origines. En tout cas, cela se confirme. Nous sommes tous bel et bien des Africains.
La Belgique, Nathalie De Vic, la Belgique rouvre en appel le procès d'un prêtre de la fraternité Saint-Pidis.
Prêtre qui doit répondre d'abus sexuels sur plusieurs enfants dans une école privée de Bruxelles appartenant à la fraternité. Ce prêtre suisse avait déjà été dénoncé en 2005 pour des faits de pédophilie lors d'un camp de jeunes organisé en Suisse par la communauté, laquelle assure avoir réglé le problème en lui imposant des mesures d'éloignement jusqu'en Belgique où on le charge, chercher l'erreur, de surveiller les dortoirs des écoliers. Une affectation pas idéal, admet la fraternité, qui reconnaît pourtant rarement ses fautes.
Nathalie De Vic, ce n'est pas le premier cas d'abus sexuel dans cette communauté.
Il y en a eu en France, en Suisse aussi, mais la plupart échappent à la justice, traités en interne, en procès canonique, étouffés aussi aux yeux de l'Église catholique depuis que son fondateur en 1970, l'évêque Marcel Lefebvre, s'est fait excommunier en voulant nommer ses propres évêques, jugeant les réformes du Vatican trop progressistes, un manque de contrôle que déplore Caroline Sagesser, chercheuse en religion et laïcité.
L'Église catholique a mis en place toute une série de dispositifs pour prévenir de nouveaux cas de pédophilie en son sein, notamment au niveau de la formation des prêtres, des instances de recours, etc., alors que la fraternité n'est pas intégrée dans ces dispositifs. C'est quelque chose qui est propre à tous les groupements religieux de petite taille qui visent un peu en vase clos.
Sauf qu'ici, paradoxalement, la communauté intégriste bénéficie en plus d'une sorte de légitimité que lui confère son étiquette catholique. Je vous parlais de la France, plusieurs cas de pédophilie dans des écoles lefévristes ont fini en procès interne sans que jamais la justice n'ait été informée. Mais c'est en train de changer. Un abbé vient d'y être condamné à 16 ans de prison pour viol aggravé. Un autre encore attend son procès. En Belgique, où le mouvement possède deux écoles privées rassemblant une soixantaine d'élèves, l'abbé suisse, rentré chez lui entre-temps, devrait être fixé sur son sort d'ici la fin de l'année.
Au Canada, Dominique Brassard, le gouvernement Trudeau présente ses priorités en matière d'affaires étrangères. En résumé, le Canada prend ses distances vis-à-vis de l'administration américaine.
La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, qui a insisté sur la nécessité pour le Canada de promouvoir et de défendre le libre-échange, le multiculturalisme et la protection de l'environnement. Et la ministre a lancé ce message aux États-Unis qui se retirent de l'accord sur le climat.
Le Canada est extrêmement déçu de la décision du gouvernement fédéral des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris sur les changements climatiques.
Chrystia Freeland ajoute que le Canada voudra prendre une plus grande place sur la scène internationale où il souhaite défendre les persécutés, les droits des femmes, des gays et lesbiennes et des minorités religieuses. Les partis d'opposition, eux, réclament un plan plus concret.
Et Dominique Brassard, le Canada a aussi présenté sa politique de défense.
Le budget canadien alloué aux dépenses militaires augmentera de 70 % sur une période de 10 ans. La stratégie prévoit notamment plus d'argent en matière de cybersécurité. Voici le ministre fédéral Marc Garneau.
Le cyberdomaine est reconnu comme étant un domaine opérationnel, au même titre que la marine, l'armée, l'aviation et l'espace. Le nouveau programme d'assurance de la cybermission des Forces armées canadiennes contribuera à protéger les réseaux et l'équipement de défense au Canada.
Le budget militaire du Canada passera de 19 milliards de dollars à 33 milliards.
C'était l'actualité francophone. À la semaine prochaine.